9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Le pouvoir d'achat est au cœur des débats de la campagne présidentielle. Il reste l'une des principales préoccupations des Français. Des manifestations pour sa défense ont d'ailleurs eu lieu un peu partout dans le pays jeudi, alors que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Mais si l'on revient plus loin en arrière, depuis les années 70 par exemple, le pouvoir d'achat des Français a-t-il baissé ou augmenté? François-Xavier Olivo, l'auteur de La crise de l'abondance, va nous le dire. Je recevrai ensuite Vanessa Seward pour son guide de la gentlewoman. Bah oui, il y a eu des dizaines de guides du gentleman, il était temps que quelqu'un pense à la gentlewoman. Mais d'abord, la crise en Ukraine, la guerre est-elle possible? Mon premier invité est un spécialiste reconnu de la Russie, il parle même le russe, il s'appelle Jean-Robert Ravio.
Europe 1.
Bonjour Jean-Robert Ravio.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes professeur de civilisation russe et post-soviétique à l'Université de Nanterre, ancien directeur des collèges universitaires français de Saint-Pétersbourg et de Moscou. On vous doit de nombreux articles et livres sur la Russie de Vladimir Poutine. Le plus récent s'intitule « Russie vers une nouvelle guerre froide ». Il est paru à la documentation française. Les Américains disent que tous les indices confirment une attaque de l'Ukraine par la Russie avant 2 semaines. La question que je voudrais vous poser, c'est à votre avis, que veut Vladimir Poutine et jusqu'où peut-il aller pour l'obtenir?
Vladimir Poutine a amassé des troupes depuis plusieurs mois déjà aux frontières de l'Ukraine. C'est-à-dire, il faut rappeler tout de même que ces troupes sont sur le territoire russe, donc il s'agit d'un déplacement interne de ces troupes, dont une grande partie d'ailleurs était déjà stationnée dans les mêmes régions, afin d'appuyer une démarche politique qui est une démarche politique et diplomatique. Ouverte, puisque on l'a vu le 15 décembre dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères russe Rybkov a présenté 2 projets de traité aux États-Unis et à l'OTAN. Alors que cherche la Russie? Elle voudrait sécuriser son flanc occidental, c'est-à-dire sa relation avec l'Occident, en s'assurant que l'Ukraine et la Géorgie, mais surtout l'Ukraine, n'entrent pas dans l'OTAN, mais surtout, je dirais, que les Occidentaux ne déploient pas de missiles à l'intérieur de l'Ukraine. Alors, je pense que Poutine a pris acte du fait que l'Ukraine avait basculé, si on peut dire, dans une alliance qui, pour l'instant, n'est pas encore scellée de manière dans l'OTAN, mais qui est du côté occidental, alliance politico-stratégique. Il veut minimiser le coût pour la Russie de cette alliance. Bon, il faut rappeler tout de même que Kiev se trouve à 250 km de la frontière russe, donc les Ukrainiens peuvent effectivement avoir des craintes d'une éventuelle invasion russe, parce que les centres vitaux ukrainiens sont proches des frontières russes, mais Moscou est à 500 km de la frontière ukrainienne. Donc Moscou a aussi des craintes pour ses centres vitaux si les Occidentaux appuient l'Ukraine éventuellement. Et donc, en fait, depuis une quinzaine d'années, les garde-fous internationaux qui avaient été posés, c'est-à-dire le grand traité ABM sur les missiles balistiques à longue portée, duquel les États-Unis sont sortis en 2001 unilatéralement, et ensuite le traité FNI sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, sont caduques. Et en fait, le déploiement des missiles de part et d'autre est aujourd'hui dans une sorte, je dirais pas de vide juridique, mais il y a un problème politique. Bon, et donc la Russie essaie de remettre sur la table un plan de partage des missiles. Elle veut en quelque sorte finlandiser l'Ukraine.
Mais pourquoi cet ultimatum lancé en décembre par le vice-ministre russe des Affaires étrangères demandant que les Occidentaux déclarent officiellement que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN et que l'OTAN retire ses troupes et ses missiles des pays limitrophes de la Russie? Pourquoi un ultimatum, sachant très bien que les États-Unis et leurs alliés vont refuser? Pourquoi un ultimatum si on ne veut pas la guerre?
Il n'a pas dit ça comme ça. Il a d'abord présenté ses 2 projets de traité et ensuite il a effectivement parlé de manière assez peu claire d'ailleurs. Il a dit aux frontières de la Russie, mais lesquelles? Parce qu'il y a celle entre la Ukraine et la Russie, mais aussi les Pays-Baltes. Et les Pays-Baltes sont dans l'OTAN. Et il y a donc des troupes de l'OTAN à moins de 150 km de Saint-Pétersbourg, hein, qui est aussi un centre vital. C'est la deuxième ville de Russie. Donc, effectivement, la Russie monte le ton, je dirais, d'un point de vue politico-diplomatique et masse des troupes. Bon, est-ce qu'il y a l'intention d'envahir l'Ukraine? Ça, c'est à mon avis tout à fait impossible. Donc là, il y a donc un bluff américain là-dessus, on le voit. Puisque
un bluff
on fait
américain
monter...
ou un bluff russe?
Il y a les deux. Il y a, un bluff russe qui est essentiellement un visé politico-stratégique, je dirais. obtenir des garanties de sécurité, obtenir qu'on renégocie sur les déploiements de missiles, etc. Obtenir l'engagement que l'OTAN n'acceptera pas l'Ukraine. Ça, l'OTAN ne peut pas le faire juridiquement. Et politiquement. Mais bon.
Non, on ne peut pas dire. Non, jamais on le laissera entrer. On ne peut pas dire, mais on peut aussi, que ce soit,
d'ailleurs. On ne peut pas le dire publiquement. On peut le laisser entendre dans des négociations très clairement. D'ailleurs, les Américains l'avaient déjà fait, puisque en 90, à l'époque de Gorbatchev, l'engagement américain oral avait été pris de ne pas étendre not one inch, pas un pouce plus à l'est qu'après la réunification de l'Allemagne. Bon, bah, le pouce a été un peu largement dépassé.
Est-ce que vous pensez qu'au cours de l'entretien téléphonique qu'ont eu Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, on a pu se dire des choses, par exemple ?
Bah, je ne sais pas, parce que je ne sais pas très bien quelle place occupe la France dans cette affaire. À mon avis, une place assez subsidiaire, voire subalterne. Mais je pense qu'entre Poutine et Biden... les choses se disent de manière beaucoup plus nette. Bon. Alors, pourquoi les Américains bluffent-ils en disant « la Russie est à deux doigts d'envahir l'Ukraine ». Ils ont déménagé leur ambassade, quand même, à Kiev. C'est quand même très fort comme signal, avec CNN, les grands titres sur CNN, Prime Time, etc. Pourquoi ? Alors, moi, mon analyse, elle est tout à fait personnelle et je l'assume totalement. Je pense que les visées américaines dans cette affaire ne sont pas politico-stratégiques. Elles sont... géoéconomique. Je pense qu'il y a une concordance des temps, il y a trois choses qui se passent. Il y a ce regain de tension entre l'Ukraine et la Russie et entre l'Occident et la Russie à propos de l'Ukraine. Il y a aussi de ce qui se passe à la frontière sur le terrain dans le Donbass où la guerre n'est pas terminée hein, et les gens continuent de souffrir sur place, ça, il faut le dire, il ne faut pas les oublier. Troisième point, il y a un nouveau gouvernement en Allemagne. Bon, et un gouvernement qui donne des signes de dissension interne sur la question du gazoduc Nord Stream. Or, pour les États-Unis, depuis des années, une des constantes de leur politique, c'est d'essayer de faire capoter ce gazoduc.
Gazoduc qui vient de la Russie, qui relie la Russie à l'Allemagne.
Qui Russie à l'Allemagne, qui est un grand projet, qui date des années 2000. Nord Stream 2 devait être et presque terminé. Et il y a une pression très forte américaine contre ce gazoduc. Et cette pression, elle est relayée par les pays qui ont tout à perdre, l'Ukraine, la Pologne, etc., qui vont perdre les droits de passage, la République tchèque, etc.
Le gaz passait par chez eux.
Le gaz passe par chez eux et donc ils en tirent des bénéfices et des dividendes. Mais ils en tirent aussi des dividendes directs, mais aussi indirects, politiques. Ils ont des moyens de pression, bon, sur la Russie notamment. Et ils vont le perdre. Et deuxième chose, les Américains sont devenus les premiers producteurs de GNL du monde. Ils ont du gaz à vendre. Ils veulent devenir le premier fournisseur de l'Union européenne. Donc, ils veulent éliminer. La Russie n'est pas tant, je dirais, un adversaire politico-stratégique qu'un concurrent direct pour le marché européen.
Jean-Marc Raviot, ne bougez pas. J'ai encore des questions à vous poser juste après une pause.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Jean-Robert Raviot, professeur de civilisation russe et post-soviétique à l'Université de Nanterre. C'est à vous que l'on doit le livre « Russie vers une nouvelle guerre froide » à la documentation française. Vous avez dit que vous ne croyez pas à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Néanmoins, est-ce que c'est possible ? La Russie pourrait-elle envahir, par exemple, la totalité de l'Ukraine ou les provinces de l'Est sécessionnistes, comme le Donbass, vous en parliez, ou Lugansk ?
Si l'objectif russe était d'envahir l'Ukraine, alors ce serait d'envahir l'Ukraine pour neutraliser ce pays, pour le placer sous une domination géopolitique russe, pour changer le gouvernement, changer le régime, etc. Bon, la Russie peut le faire, bon, mais il y a deux points. Un point, je dirais, de fond, c'est-à-dire qu'il faudrait déployer des moyens très importants, militaires très importants, et d'autre part, subir une résistance très importante de l'armée ukrainienne et de la population ukrainienne. Bon. Et d'autre part, obtenir le soutien dans une opération de cette ampleur de l'opinion publique russe. Et le soutien, il ne serait pas du tout long. Il serait même jamais acquis, je pense. Parce que pour la majorité des Russes, les Ukrainiens ne sont pas un peuple étranger. C'est une sorte de cousin, de frère, ce que vous voulez. Ce sont des peuples qui ont été réunis dans le même État depuis très très longtemps et surtout qui sont des parents directs. Alors la domination russe sur l'Ukraine qui remonte, sur la grande partie de l'Ukraine qui remonte au XVIIe siècle, elle a engendré, disons, une grande proximité entre les Ukrainiens et les Ukrainiens étant russophones également, très largement, un peu moins aujourd'hui, mais du fait de la politique d'ukrainisation du gouvernement ukrainien. Mais Néanmoins, il y a une très très grande proximité culturelle.
Il y a beaucoup de détestation aussi.
Il y a beaucoup de détestation, mais il y a aussi beaucoup de choses en commun, l'héritage soviétique en commun, la culture, les films, les références, bon, la musique, ce que vous voulez.
Donc vous pensez que la population russe n'acceptera pas...
Bien sûr que non. Je pense que pour Poutine, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied et alors là, pour le coup, un retournement complet de sa popularité.
Et envahir les provinces de l'Est sécessionnistes, comme ça s'est fait pour la Crimée, qui a été à la fois une victoire contre l'Ukraine et contre les Occidentaux en 2014, hein, et qui a été l'occasion d'une grande ferveur patriotique en Russie.
Absolument, ça c'est même porté le nom de printemps de Crimée ou printemps russe. Ça a duré quelques années, mais ça n'a pas duré éternellement non plus. C'est un peu fini, cette vague, en Russie en tout cas. Non, ce qu'on peut dire, c'est que c'est moins improbable que la Russie déploie des troupes dans le Donbass et à Lugansk, comme elle l'a fait en 2008 à l'appui de l'Ossétie du Sud contre la Géorgie. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, que ce soit en 2008 en Ossétie du Sud ou en 2014, au moment de l'annexion par la Russie de la Crimée, on a eu affaire à des opérations militaires extrêmement rapides, extrêmement inattendues, une sorte de blitzkrieg, si on peut dire. Bon. Là, ce ne serait pas du tout une blitzkrieg, ça fait 8 ans que ça dure.
Et puis, il y a toutes les caméras qui sont tournées actuellement vers...
Toutes les caméras sont là. Il y a 8 ans, il y a eu un discours très très clair de Poutine lorsqu'il y a eu l'annexion de la Crimée, c'était en mars 2014. La question lui a quand même été posée. Alors, est-ce que ça va continuer? Il y aura le Donbass, Lugansk, et puis pourquoi pas jusqu'à tout le littoral de la mer Noire annexé par la Russie? Il a dit en aucun cas. Il a justifié l'annexion de la Crimée par un point bien précis, qui est que la Crimée est peuplée d'une grande majorité de Russes. Voilà, et que c'était la région d'Ukraine où les Russes étaient ultra majoritaires, à plus de 75%. Ce n'est pas le cas dans le Donbass et à Lugansk. Alors, on a des Russes, certes. On a beaucoup de russophones, ukrainiens russophones, mais c'est des Ukrainiens. Les gens sont très partagés sur ce point. Qu'est-ce que veulent ces républiques, ces sécessionnistes? Alors, les sécessionnistes sont dans une logique, ils prennent la population en otage, etc. Mais qu'est-ce que voulait, disons, on va se replacer en 2014, la majorité de la population dans ces régions? Voulait, en fait, ils ne souhaitaient pas rejoindre la Russie, ils souhaitaient rester en Ukraine, mais avec un statut particulier, un statut d'autonomie qui leur permette notamment de rester russophones, de continuer leur vie. Voilà. Ils ne voulaient pas de l'imposition de l'ukrainien comme langue, et ils voulaient un statut particulier. Voilà. Ils voulaient de l'autonomie, ils ne voulaient absolument pas l'indépendance. Alors, ces 8 ans de guerre ont radicalisé la population. D'ailleurs, ces populations sur place ont beaucoup quitté la région, soit vers la Russie, soit vers l'Ukraine. Et puis, elles se sont radicalisées aussi sur le terrain, les pro-russes d'un côté et les pro-ukrainiens de l'autre. Et aujourd'hui, après 8 ans, il y a une situation extrêmement tendue, ce qui fait que si les Russes, comme vous dites, annexaient ces régions et intervenaient dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, ce n'est pas garanti non plus qu'ils soient accueillis à bras ouverts et qu'il n'y ait pas aussi une résistance assez forte de la population contre cette annexion forcée.
Jean-Robert Raviot, certains disent qu'en même temps, si on se met à la place de Vladimir Poutine, ce serait le bon moment d'intervenir militairement parce que les États-Unis sont sortis affaiblis d'Afghanistan, que l'Ukraine est en train de se réarmer et que donc il vaudrait mieux intervenir maintenant que plus tard.
Certes. Mais je pense que Vladimir Poutine a aussi entendu les dirigeants chinois qui ont dit qu'ils soutiendraient en aucune manière une annexion ou une entreprise de ce type. Donc ça, je pense que se brouiller avec l'Occident, c'est déjà fait. Supporter un nouveau train de sanctions internationales plus dangereux que le précédent, notamment portant sur SWIFT, etc., la Russie le craint beaucoup. En plus, annexer une région dévastée économiquement, qu'il va falloir financer tout ça. Et dans le gouvernement russe, il n'y a pas beaucoup de grands enthousiastes. La Crimée a coûté cher. Elle pèse dans le budget.
Et la Chine, ça compte beaucoup, l'avis de la Chine?
La Chine, ça compte beaucoup. Oui, bien sûr. On l'a vu au Kazakhstan, par exemple, il y a 15 jours. Bon, évidemment, tout ça s'est déroulé en coulisses, si on peut dire. Mais la Chine... il y a eu un accord russo-chinois. Les Chinois n'ont pas bronché. Ils sont tout à fait satisfaits que la situation soit rétablie de cette manière grâce à la Russie et grâce à l'Union eurasiatique. Les Chinois, en fait, en Ukraine, ils sont présents aussi, économiquement. Ils ont des terres. Ils ont leurs intérêts en Ukraine. Et ils n'ont pas non plus l'intérêt à soutenir une opération qui serait... Alors, cette fois-ci, je pense que la Russie a encore quelques soutiens, notamment la Chine. Une annexion, maintenant, il y aurait encore moins de soutien. La Russie, là, serait plus isolée. Elle ne l'est pas pour l'instant. Elle est isolée de l'Occident, mais Elle a très bonne relation avec la Chine, etc. Mais elle ne va pas mettre en danger les bonnes relations qu'elle a avec Pékin dans une aventure qui lui coûterait trop cher, je pense.
Merci Jean-Robert Raviot. Je renvoie à votre livre « Russie vers une nouvelle guerre froide » avec un point d'interrogation. C'est paru à la Documentation française en 2016. On fait une pause. On se retrouve juste après avec François-Xavier Olivo.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Alors que la question du pouvoir d'achat, souci numéro un des Français, fait un retour en force dans la campagne présidentielle, des manifestations ont eu lieu un peu partout jeudi en faveur d'une augmentation des salaires à l'appel de la CGT, des FO et de la Fédération syndicale unitaire. François-Xavier Olivo, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes l'auteur de La crise de l'abondance aux éditions de l'Observatoire, un livre pour lequel je vous avais reçu lors de sa parution, c'était l'année dernière. Et vous avez rappelé cette semaine sur Twitter que nonobstant les augmentations récentes des tarifs de l'énergie, la baisse des prix est générale depuis 1970. Même le prix de l'essence, qui n'a pourtant cessé d'augmenter, il est à 1,70€ de litre, même le prix de l'essence a baissé.
Oui Frédéric, c'est même vrai depuis le début de la révolution industrielle, donc depuis 200 ans. Alors ça paraît complètement abstrait et incroyable. Juste pour rappeler simplement deux chiffres. En 1970, l'essence coûtait 1,10 franc. Alors, vous dire 1,10 franc, oh là là, si je convertis en euros, ça fait 18 centimes, c'est pas cher. Oui, sauf que le SMIC était à 3,50 francs de l'heure. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en fait, avec une heure de SMIC, vous achetiez 3 litres d'essence, ou dit autrement, vous deviez travailler 20 minutes pour acheter un litre d'essence. Et aujourd'hui, avec un SMIC autour de 10,50 €, en fait, vous devez travailler une douzaine de minutes, 10 à 12 minutes, pour acheter un litre d'essence. Donc, l'essence est pratiquement deux fois moins cher en temps de travail. Il faut travailler deux fois moins aujourd'hui pour acheter un litre d'essence qu'il y a 50 ans. Et avec ce litre d'essence, en plus, vous conduisez plus loin et vous avez beaucoup moins de pollution.
Oui, il est de meilleure qualité. Ça n'empêche que le prix de l'essence a augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois, que le prix des énergies a augmenté.
Tout à fait. Et ça ne contredit pas du tout le fait qu'effectivement, le pouvoir d'achat depuis ces six derniers mois a effectivement baissé pour raison de cette hausse. Mais il faut simplement l'inscrire dans une vision de long terme. Et les gens ont souvent tendance à se dire « mais c'était mieux avant, avant on vivait mieux, c'était moins cher ». En fait, on vit beaucoup mieux maintenant, mais beaucoup, beaucoup mieux.
Oui, et
tout est moins cher.
Et sur tous les plans, voilà. Par exemple, en 1970, le prix de la voiture, il a baissé lui aussi.
Oui, il a baissé. Vous achetiez il fallait compter environ 5 000 et quelques francs pour acheter une deux chevaux à la fin des années 60. C'est-à-dire 2300 heures de travail. Aujourd'hui, avec 1000 heures de travail, vous achetez une voiture d'entrée de gamme de bonne qualité ou de qualité très, très correcte. Et je vous rappelle, la deux chevaux en 1970, c'était un tour en toile. Il y avait un seul rétroviseur à gauche, comme à l'époque, et les ceintures de sécurité n'étaient pas fournies avec ce prix-là.
Oui, Raymond Loewy, le grand designer, avait dit que c'était l'enfant naturel d'une poubelle et d'un store.
Ouais, ou un parapluie sur quatre roues, c'était aussi ça comme ça avait été fait.
Elle avait tellement de charme.
C'est une voiture merveilleuse, mais en termes de confort, enfin voilà, vous n'aviez pas la direction assistée, vous n'aviez pas d'airbag, vous aviez absolument rien. D'ailleurs, elle était deux fois plus légère que les voitures d'aujourd'hui. Elle pesait à peu près 500 kilos. En fait, aujourd'hui, vous avez deux fois plus de matière pour la voiture parce qu'il y a beaucoup plus d'équipement, en fait.
Et le prix de l'électricité, puisqu'on parle d'énergie.
Oui, il a aussi baissé également. Une année que j'aime bien à titre de comparaison, c'est l'année 78-79. Alors, pourquoi vous allez me dire 78-79? Parce qu'à l'époque, le SMIC était autour de 10,50 francs et le salaire médian autour de 16 francs. C'est-à-dire que c'est les mêmes chiffres qu'aujourd'hui, sauf que c'était en francs à l'époque et en euros aujourd'hui. Et donc, on peut directement lire les prix de 78-79 en francs comme si c'était pris en euros. Par exemple, le litre d'essence à l'époque, il valait 3,20 francs. Donc, c'est comme s'il valait 3,20 euros aujourd'hui. La baguette était à 1,30 francs. Vous aviez un abonnement téléphonique qui était à 45 francs à l'époque. L'équivalent de 45 euros aujourd'hui. Je vous rappelle que l'abonnement téléphonique à l'époque, c'est le fait d'avoir le droit d'avoir un câble de cuivre qui relie votre maison centrale téléphonique. Vous n'avez rien avec, aucune télécommunication, etc. Voilà, donc c'est ce type d'exemple-là. Une télévision en 78, 4 500 francs. 1200, une noire et blanc, mais une couleur autour de 4500 francs.
Et un ordinateur ?
Un ordinateur, ce n'était pas encore lancé à l'époque, mais l'ordinateur
en 84,
l'Apple est à 29 000 francs. 29 000 francs, donc c'est l'équivalent d'une belle voiture aujourd'hui.
Ah oui, à ce point-là.
Ah ouais, c'était ça. Et les performances, oui. Vous enlevez 6 zéros par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est 1 million de fois moins bien en termes de tout, en termes de vitesse de processeur, de mémoire, etc. C'est 1 million de fois moins bien qu'un ordinateur d'entrée de gamme aujourd'hui et c'est à peu près 100 fois plus cher.
Et alors bon, on voit bien là tout ça, c'est de la technologie.
Oui.
Mais la baguette, par exemple, là, il y a très peu de technologie. On fait la baguette aujourd'hui, en tout cas dans les bonnes boulangeries, comme on la faisait en 1970. La baguette aussi, elle est moins chère aujourd'hui ?
Oui, la baguette est moins chère aujourd'hui. Elle est Elle était à 1,30 francs, à 1,40 francs en 78. Aujourd'hui, elle est à 0,90 €. Et donc, la baguette aussi a baissé. Le prix du blé a baissé. Jean Fourastier, qui est un économiste français qui a beaucoup regardé l'évolution des prix, vous pouvez trouver ses chiffres de prix sur Internet. Il disait que la baisse du prix du blé était l'événement historique le plus important du XXe siècle. Parce que ça avait rendu en fait le pain complètement abordable. C'est à peu près 200 fois moins cher que sous Louis XV, le prix du blé aujourd'hui. Et donc la baguette a aussi baissé depuis les années 70. Oui.
Et un steak ?
Et un steak aussi. Un steak en 78 vaut 42 francs le kilo pour la meilleure qualité. Aujourd'hui, on est plutôt à entre 20 et 25. Et pour l'entrée de gamme, c'était 14 francs du kilo à l'époque, en 78. Donc l'équivalent de 14 euros aujourd'hui, et on est plutôt autour de 6 euros aujourd'hui.
Et toutes les denrées alimentaires, c'est le cas ?
Oui, quasiment toutes les denrées alimentaires. En fait, quasiment tous les produits ont baissé. Il y a des services qui n'ont pas baissé. Par exemple, la coupe de cheveux n'a pas baissé. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours besoin, en gros, d'un coiffeur et d'une paire de ciseaux pour couper les cheveux. Et donc le prix ne baisse pas, parce qu'il y a pratiquement pas de technologie. Vous allez me dire, il y a un rasoir, mais il n'y a pratiquement pas de technologie.
Et une consultation chez le médecin ?
Une consultation chez le médecin, alors je pense qu'elle a baissé, mais là pour le coup, elle n'est pas aujourd'hui, le prix de la consultation chez le médecin n'est pas un prix de marché, c'est un prix qui est complètement réglementé. C'est un prix qui, s'il était régulé, serait bien plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui.
Je vous arrête là, François-Xavier Olivaux, on fait une pause.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec François-Xavier Olivaux, l'auteur de La crise de l'abondance, qui nous explique que notre pouvoir d'achat n'a cessé d'augmenter depuis 200 ans, mais surtout depuis les 40 dernières années. Alors peut-être pas quand même depuis les derniers mois. Là, l'augmentation des tarifs de l'énergie, ça a renié notre pouvoir d'achat. Si les gens sont dans la rue, étaient dans la rue cette semaine, ils n'ont pas, c'est pas pour rien.
Ah non, absolument. Il y a effectivement une hausse des prix d'énergie. À mon avis, c'est une hausse qui sera résorbée dans les années qui viennent, parce qu'il n'y a pas de rareté structurelle de l'énergie. Il y a une rareté temporaire, ça c'est sûr. Il y a probablement une tension pendant au moins quelques mois, peut-être quelques années. Mais on est fondamentalement sur l'énergie aussi. On est sur un produit ou un service dont le prix baisse continuellement depuis des siècles.
Mais quand on dit tous les prix ont baissé, vous savez bien ce qu'on vous répond, François-Xavier Olivaux, mais il y a quand même des gens qui manquent de tout, il y a quand même des gens dans des situations très très difficiles. On pense d'ailleurs qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'ils sont dans le ressenti ou qu'il y a véritablement des situations dramatiques ?
Non, il y a bien sûr des situations dramatiques, mais c'est aussi relativement par rapport à une moyenne. C'est-à-dire que c'est toujours très difficile d'être plus pauvre que la moyenne et vous avez effectivement, bien sûr, des situations dramatiques, et notamment parce que la baisse du pouvoir d'achat n'a pas non plus été répartie de façon très, très égalitaire. Il y a un phénomène qui est notamment lié, c'est ce que j'explique dans mon livre, à la façon dont on crée de la monnaie. On a tendance à créer de la monnaie en la fléchant vers les plus riches par le mécanisme de l'endettement. Donc c'est plutôt ceux qui ont le plus de capacité d'endettement qui bénéficient le plus de la création monétaire. Et donc c'est un creusement des inégalités. Si vous regardez d'ailleurs les inégalités, c'est très intéressant. Les inégalités ont baissé tout au long du XXe siècle jusqu'aux années 70 et elles se sont remises à remonter ensuite. Et moi je lis ça très clairement au fait qu'on a changé en 71 de façon de créer de la monnaie. On a abandonné l'état d'or, on est rentré dans cette logique de création monétaire par la dette. C'est le début de l'endettement, mais c'est aussi le début du creusement des inégalités. Donc on a vraiment un phénomène de redistribution du pouvoir d'achat qui est pas très égalitaire, de fait, ça c'est sûr.
Tout a baissé, tout est devenu moins cher. Il y a quand même des exceptions. Il y a le cas du logement. Le logement, c'est intéressant.
Le logement, c'est très intéressant. Pourquoi tout baisse ? Tout baisse parce que la technologie fait baisser les prix. Parce que tous les ans, tous les jours, des ingénieurs trouvent des moyens de produire moins cher, des ingénieurs de production vont produire moins cher, et vous avez la concurrence qui transmet ces baisses de coûts dans les prix, et les prix baissent pour ça. Donc plus le produit est technologique, plus les prix baissent. On l'a vu avec l'exemple de l'ordinateur, mais même les produits alimentaires sont des produits avec de la technologie. Un tracteur, une moissonneuse batteuse ou des engrais, c'est de la technologie. Le logement, une fois que le logement est fait, il n'est pas refait tous les ans. C'est un produit de stock, et donc effectivement, son prix ne baisse pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 70, on peut considérer quand même que le pouvoir d'achat, même avec le logement, a augmenté. Pourquoi ? Parce que la surface qu'on habite aujourd'hui est supérieure à celle qu'on avait dans les années 70. Une personne avait droit, entre guillemets, à 23 mètres carrés dans les années 70. On est aujourd'hui autour de 40. Donc, en fait, on a plus d'espace qu'à l'époque. Si vous discutez avec vos grands-parents de comment est-ce qu'ils étaient logés quand ils étaient enfants, si vous avez encore la chance de les avoir, ils vont vous dire qu'effectivement, c'était quand même beaucoup plus tassé qu'aujourd'hui. On a plus d'espace aujourd'hui, on a plus de surface construite et plus de logements.
Mais on dépense davantage pour se loger. L'achat, c'est plus cher, mais en même temps, on bénéficie de meilleurs taux d'intérêt.
Absolument. Alors, il y a deux choses. Effectivement, d'abord, le budget, la part du logement dans le budget des ménages a effectivement augmenté, parce que le logement a moins baissé que les autres catégories. Donc, assez naturellement, sa part relative prend plus de place dans les budgets des ménages. Et puis, vous avez ce que vous dites également, qui est que le prix facial du logement a considérablement augmenté. Les taux d'intérêt ayant baissé, ça veut dire que, grosso modo, le coût total, si vous comptez la charge de la dette, n'a pas beaucoup bougé en réalité. Puisqu'en fait, toutes les baisses de taux d'intérêt, j'en reviens à la politique monétaire dont je parlais tout à l'heure, toutes les baisses de taux d'intérêt se sont matérialisées par une hausse des prix du logement. Ça a été très inflationné sur les prix du logement.
Et pour les locataires, alors eux, ils bénéficient pas des taux d'intérêt avantageux. Est-ce que c'est plus dur qu'avant ?
Oui, alors sur le logement, on voit un creusement des inégalités depuis les années 70, effectivement, en termes de pouvoir d'achat entre les propriétaires et les locataires, notamment lié à ce que je vous expliquais, qui est l'appréciation des prix du logement par la politique monétaire. Donc effectivement, aujourd'hui, les propriétaires sont plutôt plus riches ont creusé leur écart de richesse par rapport aux locataires en 50 ans, ça c'est sûr. Donc on en revient à cette logique de creusement des inégalités qui s'est opérée.
François-Xavier Olivo, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, comment ça s'est passé pour le pouvoir d'achat ?
Alors, il y a plusieurs études contradictoires. Globalement, le pouvoir d'achat a augmenté. La question, c'est de savoir comment et comment sur les différentes catégories. Il a plus augmenté pour les gens qui ont un emploi, qui sont au travail. Il a plutôt bien augmenté pour les gens aisés. Et ça, c'est lié pas seulement à la politique d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi lié au phénomène du Covid qui a beaucoup creusé les inégalités, encore une fois, avec cette logique de création de dette qui a fait que les patrimoines se sont fortement appréciés, les actions et l'immobilier. Donc effectivement, les inégalités se sont creusées. Sur les plus modestes, il y a des débats entre les chiffres officiels, entre différentes études qui disent que c'est moins clair pour les plus modestes.
Comment expliquez-vous ce ressenti largement partagé chez les Français qui pensent tous avoir perdu du pouvoir d'achat depuis, si on leur dit par rapport aux années 70, tout le monde est persuadé qu'on était plus riche à ce moment-là qu'on l'est aujourd'hui. Et vous venez de nous montrer que c'est le contraire.
Ouais, c'est une excellente question. J'ai pas de réponse toute faite. Il y a des livres très intéressants qui ont été écrits. Je pense à un livre de Hans Rosling, par exemple, qui démontre à quel point on pense que le monde devient pire alors qu'en fait il s'améliore sur à peu près tous les indicateurs que vous puissiez, pas tous exactement, mais sur une grande partie des indicateurs que vous puissiez imaginer. Je pense qu'effectivement il y a certainement une perception de probablement une idéalisation du passé, c'était mieux avant, voilà, comme les Grecs disaient déjà que les jeunes aujourd'hui n'avaient plus de les Grecs antiques, hein, n'avaient plus de discipline ni de valeur, donc voilà, que c'était mieux avant. Donc on a une tendance à dire que c'était mieux avant depuis très longtemps. Il y a aussi probablement le fait que il y a toujours des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Alors peut-être que ces gens n'avaient pas de voiture en 70 et qu'aujourd'hui ils en ont une, mais ils ont toujours du mal. Et donc le niveau de vie a augmenté. Vous avez effectivement un certain nombre de choses qui sont tenues comme acquises et vous avez toujours, il y a toujours évidemment des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois avec un niveau de vie moyen qui s'est probablement apprécié. Et donc malgré tout, ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois aujourd'hui vivent beaucoup mieux que ceux qui avaient du mal à boucler leur fin de mois il y a 50 ans. Ils ont toujours du mal à boucler leur fin de mois malgré tout.
Il y a peut-être aussi que nous sommes tous devenus inconsciemment des consommateurs, ce que l'on n'était pas tous, pas dans les mêmes proportions, en tout cas il y a 40 ans, ou il y a 50 ans.
Oui, il y a 40 ou 50 ans, bien sûr. Oui, on a accédé à une abondance absolument considérable. Hein.
C'est le sujet de votre livre.
C'est le sujet de mon livre, absolument. Et le sujet de mon livre aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans l'abondance qu'on n'a pas de crise. Et on a effectivement... Il y a des crises qui sont d'ailleurs liées à notre incapacité à maîtriser cette abondance, une crise environnementale évidente, majeure.
Vous l'expliquez bien dans le livre, en fait, on a l'habitude de gérer les pénuries, on n'a pas l'habitude de gérer l'abondance.
Exactement, et il faut qu'on apprenne à gérer l'abondance. Et ce n'est pas si simple que ça, en fait. Ça paraît incroyable, mais ce n'est pas si simple que ça.
Merci François-Xavier Olivo. La crise de l'abondance est parue aux éditions de l'Observatoire. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Vanessa Seward, qui a eu la bonne idée d'écrire un guide de la gentlewoman. C'est vrai, il y a tellement de guides pour les gentlemen.
Absolument.
Autant qu'il y en ait un pour une femme.
Merci beaucoup, Frédéric.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Vanessa Seward.
Bonjour Frédéric.
Vous avez travaillé avec Karl Lagerfeld chez Chanel, avec Tom Ford chez Saint Laurent, avant de rejoindre Loris Azzaro chez Azzaro et de lui succéder en 2003. En 2014, vous avez lancé votre propre marque, Vanessa Seward. Et aujourd'hui, vous publiez chez Jean-Claude Lattès le guide de la gentlewoman, coécrit avec Mathieu Debureau. C'est vrai qu'on a beaucoup glosé sur le gentleman. Il existe beaucoup de guides pour les hommes qui se voudraient élégants, chic et raffinés, mais rien sur son équivalent féminin. Alors, à qui ressemblerait la gentlewoman de vos rêves, à part à vous, et quelles seraient ses caractéristiques?
Je pense qu'il y a plein de femmes qui ressemblent, mais c'est une femme qui est gentille, qui est empathique. C'est pas juste l'allure, c'est aussi une manière d'être.
L'actrice Joan Crawford est souvent citée. Sylvia Kristel aussi, l'interprète d'Emmanuel. Pour vous, ce sont des gentlewomen?
Oui. Sylvia Kristel, elle m'a toujours beaucoup inspirée parce qu'elle avait comme une sensualité, mais avec quelque chose presque d'un peu mélancolique et pas agressif qui m'a toujours touchée.
Vous réhabilitez le charme dans ce guide, hein. On en parle pourtant moins qu'avant. C'est quoi le charme?
Pour moi, c'est très important et je trouve que c'est une super qualité pour les femmes. Et je pense qu'elle vient souvent des défauts. Donc, je voulais aussi mettre en valeur...
Oui, ça nous change un peu de la quête de perfection d'aujourd'hui. Hein.
Oui, parce que j'avais marre de cette quête de perfection qu'on voit partout, notamment sur les réseaux sociaux ou... On doit toujours se poster avec des filtres pour pas. Et je trouve qu'au contraire, les défauts, ça, c'est ce qu'il y a de plus charmant. Et je me rends compte, même moi qui ai toujours voulu essayer d'être parfaite, c'est quand les gens voyaient mes défauts, finalement, qu'ils s'attachaient le plus. Donc, ouais.
Dans les guides du gentleman, il y a toujours des conseils d'habillement, des petites astuces. Vous en donnez évidemment aussi. Par exemple, celui-ci de Marlène Dietrich, toujours porter des chaussures de la même couleur que la jambe. Pourquoi?
Oui, parce que ça allonge les jambes. C'est un effet optique, ça allonge les jambes. Je crois qu'elle a aussi dit, par exemple, mes jambes ne sont pas si bien que ça, mais je sais comment les utiliser. Enfin, elle a dit mieux que
oui,
ça.
Donc
mais...
en fait, l'été, quand on a les jambes nues, il faut mettre des chaussures couleur chair. Et ensuite, il faut les assortir soit à ses collants, soit à ses bas, soit à ses chaussettes.
Voilà, c'est ça.
Et votre jambe voilà. Immédiatement devient plus longue.
Voilà, l'illusion optique est géniale. Voilà.
Vous êtes partisane de la devise « achetez peu de vêtements, mais achetez les biens ». Une gentlewoman, ce n'est pas une fashion victim.
Ah oui, pas du tout. Et j'y crois beaucoup, à se faire une garde-robe. Et moi, je porte encore des vêtements que j'ai depuis 30 ans. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas changer de taille. Voilà.
Oui, c'est ça qu'il faut rester comme voilà. On était c'est il y a ça. 30 ans.
Voilà.
Évidemment. Le bien-être et le confort sont les maîtres mots de l'élégance actuelle. Il ne faut pas être apprêté. Mais est-ce que ça va jusqu'au jogging et au basket?
C'est bien le confort, mais il faut éviter d'être avachi quand même. Et les baskets, c'est super, mais c'est bien aussi d'avoir des alternatives. Voilà, pas que... C'est comme un uniforme, sinon.
Est-ce qu'une gentlewoman peut faire de la chirurgie esthétique?
Je ne juge pas, mais en tout cas, voilà, encore une fois, comme je trouve qu'on peut assumer ses imperfections, je trouve que c'est pas indispensable. Je vois pas ce qu'il y a d'horrible à avoir des rides. Enfin, et je dis justement que ma mère montait souvent sur son âge, mais moi je trouve que c'est bien d'assumer son âge. Je trouve que c'est mieux d'être bien pour son âge que d'être tapé pour...
voilà. Vous dites qu'il faut même plutôt se vieillir un peu. Comme ça, on a l'air encore mieux.
Voilà, c'est ça.
Vous dites aussi pourquoi livrer son corps aux chirurgies esthétiques quand il suffit de changer de tenue. On peut véritablement améliorer les choses par le vêtement.
Oui, vraiment. Je pense qu'il faut s'habiller pas selon la mode, mais selon son corps. Et j'ai appris des choses, notamment avec Laurie Sazzaro. Mais par exemple, si on veut avoir les jambes plus longues, il faut mettre la taille légèrement plus haute. Voilà, il y a plein d'astuces qui font. Par exemple, c'est bien aussi de s'habiller d'une couleur. Parce que ça élance la silhouette. Ou, voilà.
La tentation de faire augmenter ses lèvres ou ses seins, de lisser les contours de ses yeux ou de s'élargir la bouche, ça ne disparaît pas en changeant de lunettes ou de chemise quand même.
Oui, mais bon, moi je trouve qu'il faut, dans la mesure de possible, assumer ses défauts. C'est ça aussi qui fait notre personnalité, c'est ça qui est bien. Et les vêtements, je trouve que c'est un mode d'expression et il faut... juste qu'il y ait cette légèreté. Je parle par exemple de Barbra Streisand qui est on voulait toujours qu'elle se change le nez et elle était super charmante comme ça. Et
En fait, il faut s'assumer, quoi. Une gentlewoman, pour vous, Vanessa Seward, c'est quelqu'un qui s'assume.
Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça.
La gentlewoman, toujours elle, doit partir en beauté. L'ultime élégance, dites-vous, c'est d'aller chez son coiffeur avant de se suicider. C'est pas une coquetterie, hein. Vous racontez que la journaliste Carmen Tessier et la mannequin Capucine se sont rendues chez le coiffeur Alexandre de Paris avant de se défenestrer.
C'est ça. Oui, parce que, voilà, avec mon co-auteur Mathias de Bureau, on voulait quand même... évidemment, mettre un peu d'humour dans ce livre. Donc, oui.
C'est d'humour noir, là, en l'occurrence.
C'est exactement.
Il y a d'autres exemples, d'ailleurs. Il faut choisir soi-même la papeterie sur laquelle seront imprimés les faire-part. Ça, c'est une actrice qui l'a fait, vous le racontez. Il faut choisir son cercueil. Voilà. Et surtout, surtout, pas de playlist. Hein. C'est si horrible que ça de s'infliger la playlist de celui qui vient de disparaître ou de celle qui vient de disparaître.
Non, mais c'est un peu pour éviter les clichés. Voilà.
La cigarette a été longtemps un accessoire de l'élégance féminine. Est-ce qu'on peut la remplacer ? Pas par une cigarette électronique, on dirait une prothèse. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va disparaître ? Ou en tout cas, c'est tellement mal vu aujourd'hui de fumer que ça ne peut plus être assimilé à l'élégance ?
Ouais, c'est sûr que j'ai toujours adoré même le geste. Enfin, il y avait quelque chose d'assez élégant dans le geste. Mais bon, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, entre, surtout là, avec le masque, et puis même, on est toujours un peu répudié quand on doit aller fumer dehors. Enfin, voilà. Donc, non, je pense qu'il faut trouver d'autres choses comme ça, tout de suite.
La gentlewoman doit cultiver le décalage, écrivez-vous. C'est quoi ? Est-ce que c'est l'équivalent de la distance chez le dandy qui doit toujours paraître à 1000 km de ce qu'il ressent ?
De mon point de vue, c'est même assumer presque un côté presque un peu maladroit aussi. C'est pas forcément ce. Cette distance, ça peut être aussi un décalage maladroit. Moi, je suis très sensible aux gens maladroits et timides. Voilà,
Merci Vanessa Seward.
Merci.
Le guide de la gentlewoman, coécrit avec Mathieu Debureau, c'est une première. C'est la première fois qu'on fait un guide de la gentlewoman. Ça vient de paraître chez Jean-Claude Lattès.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. On se retrouve demain matin à 9h. Et évidemment, c'est maintenant les grandes voix. Quel est le programme ?
Moi, c'est Pierre Devineau. Oui. Mon cher Frédéric, ravi de vous voir aussi. Doit-on s'attendre à une guerre mondiale ? On est en droit de se poser la question avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On parlera des carnets de campagne. Des grandes voix avec le feuilleton Amour et Trahison au Rassemblement National et puis le scandale des EHPAD révélé dans ce livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs chez Fayard.
Bonne émission Pierre de Villeneuve.
Merci.